Bonsoir à chacun.
Bonsoir.
Voilà, nous sommes Thierry et Monique de Suisse et nous sommes très heureux d'être parmi vous. C'est vrai qu'on a souvent entendu parler de vous, de votre foi, de votre amour, de plein de choses très bonnes à votre sujet. Et vous devez vous demander, mais d'où ça vient? Eh bien, il se trouve qu'on est allé une ou deux fois du côté d'Alès et on nous a parlé de l'église du centre Martin Luther King. Et donc, c'est un petit peu comme si on vous connaissait déjà un petit peu. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on se réjouissait beaucoup. Et une autre raison, c'est que nous aimons beaucoup découvrir des parties de la famille de Dieu. Nous avons un Père tellement bon. Et voilà, c'est chaque fois une joie de découvrir quelques-uns de ses enfants, nos frères et sœurs, et ça nous fait très plaisir. Voilà, je pour les présentations, tout ça, je ne sais pas ce que tu veux dire. Vous voulez savoir quelque chose? On est parents de trois enfants adultes, on a trois magnifiques petits-enfants, petits-fils, tous plus vifs les uns que les autres et qui font notre bonheur. Voilà, on aime visiter les églises.
Voilà.
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 Ah, et c'est lui le porte-parole.
Dis chaque fois la même chose, mais comme c'est chaque fois un public différent, ça va. Moi, je suis la bouche, Monique, c'est le cerveau. Donc, il est nécessaire qu'elle continue de penser, parce que si elle arrête de penser, moi, je m'arrête de parler. C'est aussi simple que ça. Mais vous allez voir qu'on a l'habitude un peu d'interagir ensemble. Et c'est vrai que tout ce qu'on porte aujourd'hui, on l'a reçu, préparé, réfléchi, prier ensemble. Et c'est vraiment une grande joie. Voilà. Moi, je suis pasteur. J'ai été consacré dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud. Canton de Vaud, qui est un des grands cantons de langue française de Suisse. C'est l'église officielle. Donc, j'ai été consacré en robe noire, en rabat blanc, d'où le rappel ce soir à la cathédrale de Lausanne devant les autorités synodales et devant les autorités politiques. Il y a ceci bientôt 30 ans et mon cœur est réformé, je suis un pasteur réformé et notre chance en étant réformé c'est qu'on fait peur à personne. Et que depuis maintenant pas mal d'années, on voyage dans toutes sortes d'églises, en Suisse romande, en France, en Italie, au Portugal, en Angleterre, au Québec, en Belgique, en Allemagne, enfin bref, et toutes sortes de milieux. Ça fait 10 jours qu'on est en France. On va rester encore jusqu'à la fin de la semaine. Après, on sera content de rentrer à la maison. La première partie de la semaine passée, on l'a passée dans le congrès du RESAM, le réseau de soutien au ministère. Peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est un réseau européen francophone de personnes qui ont décidé de mettre leurs compétences et leur ministère au service des pasteurs et des missionnaires qui en ont besoin. Et on est une quarantaine comme ça. Il y a des chambres d'hôtes, par exemple, je dis ça pour les pasteurs d'ici. Si vous allez sur le site du RESAM, vous trouverez des chambres d'hôtes un peu partout à très bas prix pour pouvoir passer une semaine. Vous trouverez des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement spirituel, des gens, enfin, toutes sortes de choses. Et puis ensuite, on était, le week-end passé, on était à Évreux, donc dans l'Eure, dans une communauté catholique charismatique. Et voilà, des gens complètement différents, mais en même temps des gens qui aiment Jésus. Et c'est vraiment super de pouvoir rencontrer une autre partie du corps du Christ, des gens avec une piété vraiment belle et forte, et un engagement pour le Seigneur absolument incroyable. Et puis aujourd'hui, on est avec vous dans cette église de Nîmes, église qui appartient au mouvement baptiste, hein, si je ne me trompe pas. Et puis la semaine prochaine, en Suisse, on sera dans une communauté pentecôtiste. Et puis voilà, on a cette chance de pouvoir aller un peu partout dans le corps du Christ. Et c'est intéressant pour nous puisque notre message, c'est un message qui concerne la culture relationnelle qu'on peut avoir entre nous. Peut-être vous vous êtes posé la question de ce titre « culture de l'honneur ». On n'est pas des mafieux convertis qui avons besoin de faire un crime d'honneur, je vous assure. Mais simplement, on pense que l'honneur est une valeur du ciel, une valeur du royaume de Dieu, que l'ennemi s'en est emparé et qu'il a réussi à la tordre de manière à ce qu'aujourd'hui, on puisse parfois en avoir peur, comme il l'a fait avec d'autres valeurs, comme par exemple l'autorité, qui est une valeur du royaume de Dieu, et aujourd'hui l'ennemi a pris le mot autorité, il l'a tordu au fait qu'aujourd'hui on n'aime plus l'autorité. Il a fait ça avec le mot amour, qui est une valeur du royaume, et aujourd'hui le mot amour a été mis à toutes sortes de couleurs. Et voilà, il a fait ça avec beaucoup de valeurs du royaume, il l'a tordu. Et on pense qu'il a fait ça aussi avec ce qu'on appelle l'honneur, on aura l'occasion d'en parler. On va faire un parcours pendant ces 4 soirées et ce dimanche matin. Donc je vous dis déjà, vous pouvez toujours amener des gens supplémentaires, mais il faut leur faire un petit résumé de la veille. Parce que je vais un peu m'appuyer quand même, on va progresser hein, ensemble. C'est ça le but, parce que si je devais refaire 5 fois la même chose, ce ne serait pas marrant pour ceux qui veulent venir 5 fois. Donc on va faire un cheminement ensemble. Voilà, alors on va démarrer, et que comme on démarre, eh ben, on démarre par où? Dans un parcours biblique, eh ben, on démarre par la Genèse. Alors, vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos Bibles, parce que c'est des textes qu'on connaît à peu près par cœur. On va faire plusieurs touchdowns, ça vous dit quelque chose? J'ai fait de l'aviation quand j'étais plus jeune. Et touch and go, donc c'est le moment où on touche la piste et puis on repart. Donc on va faire plusieurs fois ça avec les textes bibliques, on va s'approcher des textes, on va les méditer, on va repartir, et puis on va naviguer comme ça de terrain en terrain, de manière à cheminer ensemble à travers le texte biblique et puis aussi la révélation que Dieu nous en donne. Alors le premier texte que j'ai envie de lire avec vous, ben, c'est Genèse 1:1. Et puis Genèse 1, 2. Et puis on va y passer la soirée à peu près. Et puis demain, on fera Genèse 1, 3, Genèse 1, 4. Et puis après... Non, je vous plaisante. Non, non. Parce qu'autrement, on en arrête pour un moment jusqu'à ce qu'on soit à l'Apocalypse. Ça prend du temps à ce rythme-là. Même si ce serait certainement passionnant. Donc je lis au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alors ça, c'est une traduction possible. Il y en a toutes sortes. C'est des textes difficiles en hébreu. On a parfois aussi la traduction « La terre était tohu bohu ». Ça, c'est pour les plus anciens. Hein. On lisait « La terre est tohu bohu ». Tu sais ce que c'est, tohu bohu? Tu sais pas? Je vais t'expliquer. Le tohu bohu, t'as des frères et sœurs plus grands? Ouais, ils ont une chambre. Tu vois? Quand on entre dans la chambre d'un adolescent, on a généralement une idée du tohu bohu. Hein? Le tohu bohu, c'est ce qu'on traduit par chaos, informe, vide. En fait, c'est très plein, mais on ne sait pas très bien où on en est. Alors, si on fait une petite étude des deux mots tohu bohu à travers la Bible, on le trouve assez peu. On trouve des fois tohu, des fois bohu, des fois tohu bohu. On trouve ça chez les prophètes, on trouve ça dans les psaumes, mais on n'a pas beaucoup d'occurrence de ces mots. Mais on peut en trouver trois caractéristiques. Voilà, j'en suis à tohu-bohu dans mes trucs. On peut trouver trois caractéristiques du tohu-bohu. La première des caractéristiques, c'est que dans le tohu-bohu, il n'y a pas de repère. On ne sait pas où on est. Alors nous, on a trois enfants adultes, mais on a eu trois enfants adolescents, bien sûr, hein, ils passent tous par là. En particulier deux des enfants, les deux filles, je suis désolé mesdames, le garçon, ça allait, mais elle, quand on entrait dans leur chambre, d'un coup, on n'avait plus de repères. On pouvait entrer, mais ce n'était pas si facile de ressortir. Hein. Il fallait chercher un moment. Donc le tohu-bohu, c'est un lieu où on ne sait pas où on est. Et puis la deuxième caractéristique du tohu-bohu, c'est qu'il n'y a pas de chemin, nous dit un des prophètes. Il n'y a pas de chemin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer. On ne sait pas où aller dans le tohu-bohu. Donc sans repère, sans chemin, on voit bien que c'est un lieu où on est perdu. Et puis la troisième caractéristique du tohu-bohu, c'est que Dieu ne peut pas l'habiter. Alors ça, je ne sais pas pour les chambres d'adolescents. Je crois que Dieu peut habiter une chambre d'adolescent. Il a tout vu de l'humanité, il peut aller jusque-là. Hein, c'est difficile. Donc la terre est informe et vide, la terre est tohu-bohu, et Dieu va créer la magnifique création qui est autour de nous. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Il va le faire de deux manières. Il va parler et il va séparer. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et puis ensuite, tout le récit de la création continue. Voyez, on va quand même un peu plus vite que simplement Genèse 1 et 2. Hein, enfin, Genèse 1, 1 et 2. Et Dieu continue son mouvement de création en disant et en séparant. Par exemple, il y a les eaux, ils sont séparés, le mouillé est séparé du sec. Les eaux d'en haut sont séparées des eaux d'en bas. Et puis ensuite, quand il crée les espèces végétales, c'est chacune selon son espèce. Donc, séparées les unes des autres. Quand il crée les animaux, c'est chacun selon son espèce, séparés les uns des autres. Et puis, tout au sommet de la création, il crée l'homme. Et puis après, il voit que ça ne va pas, que l'homme soit seul, parce que l'homme, il est différent de tout et de rien, j'ai envie de dire. Alors il dit, on va lui faire une épouse qu'il va tirer de l'homme. Et là, on est au sommet de la différence. Il n'y a rien de plus différent qu'un homme d'une femme ou qu'une femme d'un homme. Donc Dieu, pour créer notre monde, il a mis des éléments et il a séparé, il a mis de la diversité. Et aujourd'hui, quand on regarde notre création et qu'on la regarde avec attention, moi j'ai une épouse qui aime énormément les fleurs. Quand on se promène, vous savez, on a un rythme de marcheur suisse. En général, ça monte. Hein. Puis à la descente, c'est... Mais elle sait. À chaque fleur. Tout le temps, elle regarde. Alors elle m'apprend à regarder. Alors moi, des fois, ça me casse un peu les pieds. Vous on dit ça en France, casser les pieds, ouais. Vous, s'il y a une expression suisse que vous ne comprenez pas, vous me dites. Hein. Ça joue? Ça joue? Ça le fait? Bon, ok. Vous me dites, hein, si vraiment vous levez la main, vous dites là, je ne comprends rien à ce que vous dites. Ça, je traduirai en français. Donc, on regarde les fleurs et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'y en a pas deux semblables. On regarde les animaux, il n'y en a pas deux semblables. Même si ces deux girafes, elles ne sont pas les mêmes. On regarde les êtres humains, il n'y en a pas deux semblables. Dieu a mis de la diversité, de la distinction dans ce monde. Énormément de différences. J'ai envie de dire, c'est comme ça qu'il a vaincu le tohu-bohu. Alors c'est une phrase un peu délicate au niveau théologique parce que ça donne l'impression que le tohu-bohu préexiste à la création, vous voyez ? Alors il y a des grands débats, hein, parce qu'avec ces deux premiers versets on est un peu en difficulté, parce que Dieu créa, bara, hein, ce verbe hébreu, donc il crée ex nihilo à partir de rien, et puis en même temps la terre était informe et vide, donc on ne sait pas tout à fait si on est parti de rien du tout, ou bien s'il y avait un machin, tohu-bohu, et puis que Dieu a fait quelque chose. Et puis finalement, je vous dirais que je m'en fiche un peu, parce que ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tellement ce qui s'est passé il y a je ne sais pas combien de milliers d'années, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, la réalité, frères et sœurs, c'est que nous sommes tous différents les uns des autres. Et quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image. L'homme est à notre image. Créons l'homme à notre image, dit Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu dit « Créons l'homme à notre image, mâle et femelle » ? Parce qu'il le crée avec de la diversité. Et pourquoi est-ce que c'est à l'image de Dieu ? C'est parce que notre Dieu, le Dieu que nous confessons, le Dieu qui s'est révélé, à travers toute l'histoire de l'humanité, du peuple juif et de Jésus, etc., c'est un Dieu trinitaire. Et que ce Dieu trinitaire, à l'intérieur de lui-même, il porte de la diversité. Le Père n'est pas le même que le Fils. Le Fils n'est pas le même que l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas le même que le Père. Dieu porte en lui-même de la diversité. Et c'est très important de comprendre que Dieu porte en lui-même de la diversité. Parce que c'est en ceci que nous sommes à son image. Parce que la diversité à l'intérieur de Dieu nécessite de la relation. Le Père est en relation avec le Fils. Le Fils est en relation avec l'Esprit. L'Esprit est en relation avec le Père. Et de la même manière, nous sommes divers et nous sommes appelés à être en relation les uns avec les autres. Et c'est là où ça se gâte. Et Dieu a voulu que nous soyons à son image. C'est-à-dire porteurs du même genre de relation que lui porte à l'intérieur de lui-même. On va développer ça un petit bout plus loin. Imaginons un instant que nous soyons tous les mêmes. Vous aimeriez ? Ça donnerait à peu près ça, hein ? Ça, c'est une église normale, vous voyez, avec des gens tous les mêmes. Et puis, si par hasard l'église se développe et puis devient une méga church, ça donne ça. On pense la même chose en même temps, on respire de la même manière, on a tous les mêmes idées, il n'y a pas de différence, tout le monde est toujours d'accord sur tout. Il y en a un qui cligne d'un œil, tout le monde cligne de l'œil en même temps. Tous les mêmes, pas de diversité. Ce serait assez casse-pied, vous ne trouvez pas ? Et pourtant, quelque part, il y a des gens qui pensent que c'est ça le but. Parce que Jésus a prié qu'ils soient un. Oui, mais il n'a pas dit qu'il soit uniforme. Il a dit qu'il soit un comme nous sommes un. C'est-à-dire différents les uns des autres, mais en relation. Et dans une relation tellement bonne et tellement saine que cette relation-là a en elle-même un pouvoir extraordinaire parce que c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres que le monde saura. Donc l'enjeu est fondamental. C'est le tout premier témoignage, c'est notre qualité relationnelle. Alors on n'est pas comme ça, et heureusement, on est plutôt comme ça. Hein ? Et puis les méga church, ça donne ça. J'ai pas trouvé plus grand, hein, donc vous m'excuserez, mais c'est comme ça. Et cette différence, je l'ai dit, elle est portée à son paroxysme entre l'homme et la femme. Alors j'ai mis une ou deux petites images. C'est un peu pour se détendre, hein, parce que j'ai remarqué que des fois, le sujet, il est sérieux, alors on est un peu crispé, hein, parce qu'on parle... Alors, par exemple, il y a un mot en anglais, mais je vais vous le traduire, vous inquiétez pas, je suis pas un narrateur américain, je suis suisse, hein, mais il y a des bonnes images qui sont des fois en anglais. Alors, vous voyez, la différence entre l'homme et la femme, c'est ça. « Ne pleure pas, bébé, c'est juste un film. » Vous voyez la différence, hein? Et puis tout de suite après, ça donne « Ne pleure pas, bébé, c'est juste du football. Hein? » La différence que nous avons entre nous. J'aime beaucoup développer un peu la différence entre les hommes et les femmes. Vous savez, avec Monique, depuis de très nombreuses années, on accompagne des couples, et des couples en difficulté, c'est une partie de notre ministère. Et puis je dois dire que c'est assez impressionnant. Alors j'aime beaucoup raconter cette histoire-là. C'est l'histoire d'un homme qui se promène sur une plage, et puis il trouve une lampe à huile. Vous savez, c'est une lampe à génie. Hein, y a ça dans tous les contes. On aime bien les contes, on aime bien la Bible, mais on aime bien les contes aussi, hein, parce qu'on est quand même des gens, on est normaux, donc on aime bien les contes. Alors il trouve cette lampe, il la frotte, et pouf, il y a le génie qui apparaît, tu vois. Mais c'est un génie spécial, parce qu'il dit à l'homme, « Bonjour, je suis un génie spécial. Normalement, les génies peuvent exaucer 3 vœux, mais moi, je peux exaucer un seul vœu. Alors choisis bien. » Alors l'homme réfléchit un moment. Il est à Évreux, j'ai dit, il était en Normandie, c'était bien, mais ici, je vais dire qu'il est par là, voilà. Et puis il réfléchit et puis il dit à l'homme, il dit au génie, écoute, j'ai une idée, j'ai de la famille en Amérique, j'aime pas l'avion, j'aime pas le bateau. Est-ce que tu peux me faire un pont qui relie l'Europe et l'Amérique, comme ça je pourrais aller en voiture. Bonne idée. Le génie, il se gratte la tête, il dit, écoute, c'est un peu compliqué quand même, ton histoire. Tu vois, t'as pas un autre vœu quand même. Alors le gars, il se gratte la tête, il dit, oui, j'en ai un autre, j'aimerais comprendre ma femme. Alors le génie le regarde, il dit, le pont, 2 ou 4 pistes. Bon, ça, c'est juste pour rigoler. Vous pardonnerez, mesdames. Hein. Mais on est différents. Il y a de la différence partout. Et il y a de la relation. Et cette relation est une clé. Et on va y revenir tout au long de ces soirs. Alors, j'ai mis une petite image de la Trinité. Parce que je sais que dans le monde protestant, on n'aime pas trop les images. Hein. On a été assez iconoclastes dans notre genre. Mais de temps en temps, ça vaut le coup de se rappeler cette Trinité. Et puis j'aimerais vous lire un extrait tout au début du livre qu'on a écrit avec Monique qui s'appelle « Honneur et puissance », d'où le titre de la conférence. Je profite pour dire que si vous souhaitez ce livre, il y en a quelques-uns à la sortie. Ils sont au prix de 18 euros. Il n'y en a pas beaucoup parce que les catholiques d'Évreux, ils se sont précipités dessus. J'en avais un tiers de coffre et il n'y en a plus. Alors je suis en train de chercher où c'est, chérie. C'est dans l'introduction. Hein. Voilà, c'est là. Alors je vous lis, c'est Monique qui a écrit cette partie, donc je la lis avec beaucoup de fierté. Dans le ciel, ça s'appelle. Donc imaginez la Trinité, hein. Dans le ciel, le Père dit, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. » Et il met sous les pieds du Fils, sous les pieds du Fils, et il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, et il attire les hommes vers son Fils, sans crainte d'être détrôné. Le Fils accepte le projet du Père, sachant qu'il le mènera à la crucifixion pour que la gloire de son Père soit manifestée par la grâce. l'Esprit révèle la gloire du Père et du Fils aux hommes. Tandis que ni le Fils ni le Père ne tolèrent qu'on ne maltraite l'Esprit Saint, qu'on lui mente ou qu'on dise du mal de lui. Et la boucle est bouclée, l'honneur ne cesse de circuler dans le ciel entre les membres de la Trinité. Pour notre part, nous aimons imaginer les relations joyeuses et valorisantes des membres de la Trinité les uns pour les autres. Aucune crainte de vexer l'autre ou d'être blessé. Aucune rivalité. Chacun différent est pourtant un, chacun faisant sa joie de la présence des deux autres, cherchant à leur faire plaisir et à les honorer, à manifester leur gloire. C'est dans la Trinité que la culture de l'honneur prend racine et trouve son modèle. Sur la terre, imaginez maintenant une église dont les membres s'aiment véritablement les uns les autres, où chacun a sa place et se sent valorisé par les autres. Une église dont les ministères sont florissants et s'articulent harmonieusement, se soutenant mutuellement dans la sécurité de la bienveillance de chacun. Une église qui déborde de joie et d'espérance au point qu'elle ne peut pas faire autrement que de bénir tous ceux qui gravitent autour d'elle et de déverser sur eux la bonté d'un Dieu absolument bon, compatissant et puissant. Imaginez les églises et les ministères d'une même région, d'un même pays, d'un même continent, qui se reconnaissent et se soutiennent dans leurs différences. Des chrétiens unis dans le seul désir d'amener ensemble la gloire et les ressources du ciel sur la terre, et de faire bénéficier ce monde des richesses et des bénédictions d'un Dieu qui l'aime et le cherche. Nous sommes à l'image de la Trinité. Et quand Jésus a prié qu'il soit un comme nous sommes un, il a aussi prié pour que nous demeurions en Dieu. Vous vous souvenez ? C'est une des rares prières de Jésus dont on a le contenu. On sait qu'il priait beaucoup, mais on ne sait pas beaucoup le contenu. Mais ça, on sait. Comment est-ce qu'on pourrait demeurer en Dieu si Dieu était monobloc? Impossible. Si Dieu est un bloc, on ne peut que tourner autour, on ne peut pas demeurer dedans. Alors que notre Dieu est une Trinité. Et entre les membres de la Trinité, il y a cette relation extraordinaire d'honneur, d'amour, de respect. Et ils bougent ensemble. C'est ce que les pères de l'Église appelaient la péricorèse, la grande danse de la Trinité dans le ciel. Et ils tournent tout autour de nous. Et nous pouvons demeurer en eux. Parce que voilà une autre image de la Trinité faite par une sœur catholique où on a le Saint-Esprit, le Fils qui lave les pieds, le Père qui aime, et au milieu, on ne voit pas très bien là, il y a l'humanité. L'humanité a sa place au cœur de la Trinité. Imaginez un instant que notre qualité relationnelle, à l'image de la qualité de la Trinité, fasse la place pour que les gens qui souffrent aient envie de venir se mettre à l'intérieur de nous, dans le corps du Christ. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que nous nous offrions à l'humanité sur cette terre une image, une icône, une représentation de la Trinité du ciel et que nous offrions cet espace de qualité relationnelle, d'amour, de bénédiction, de grâce et de tout ce qu'on veut qui fait que les gens de l'extérieur ont envie de venir goûter à l'intérieur. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Et c'est donc un enjeu d'évangélisation avant tout. Et quand je dis évangélisation, ce n'est pas des pancartes qu'on porte dehors. Oui, c'est aussi ça. Mais c'est une possibilité de faire que les gens, venant à l'intérieur, entre nous, goûtent cette atmosphère du ciel et n'aient qu'une envie, c'est de ne pas repartir. C'est ça l'enjeu de la culture de l'honneur. Sur un piano, il y a 88 touches, tu savais ? Il faut les compter, tu compteras. Si tu as un piano, tu regarderas, c'est un piano là ?
Oui,
là il y en a. Il est complet ce piano, c'est un piano complet ? Oui, je pense. Hein. Tu regarderas, tu comptes, il y a 88 touches. J'aimerais vous montrer une petite vidéo qui m'a fasciné. C'est une publicité en fait, mais je ne vous dirai pas pourquoi, parce que j'ai enlevé la fin. Dans cette publicité, on a pris un piano. En réalité, on a pris deux pianos. Là, il y en a un pour l'instant. Et ce piano, il est accordé normalement. Donc, dans la diversité des notes. D'accord ? Et on a demandé à un virtuose, parce qu'il est vraiment virtuose, vous verrez, de jouer un morceau sur ce piano. Et puis, on lui a demandé de se retourner. Donc il est comme ça, il va se retourner et il sera devant un deuxième piano qui est derrière lui en ce moment. Et ce piano a toutes les notes accordées de la même manière. L'uniformité. Vous voyez ? Et nous, on va écouter le même morceau joué sur le piano accordé normalement et joué sur le piano accordé avec toutes les notes, la même chose. Ça va ? Et on va écouter la différence. Pour qu'on mesure l'importance de la diversité, mais aussi l'importance de l'harmonie entre nous. Ça dure 2 minutes, hein, ne vous inquiétez pas. C'est que comme on est différent, on peut avoir des points de vue différents. Comme on est différent, ben on est différent. Et qu'on n'est pas toujours d'accord. Et qu'on ne voit pas toujours la même chose. Et l'enjeu d'une culture de l'honneur, d'une culture d'amour, de respect, de grâce, de bienveillance, c'est d'être capable d'être ensemble, même quand on n'est pas d'accord. Parce que Jésus l'a dit, c'est facile d'aimer ceux qui sont comme nous. C'est les autres où ça se complique. Voyez, on a des points de vue. Mais imaginez que celui-là, il est copain avec celui-là. Ça se gâterait, non ? Vous ne trouvez pas ? Une image pour laquelle on a beaucoup d'expérience, mon épouse et moi, c'est celle-ci.
C'est la
n'a pas les mêmes problèmes. On ne réagit pas de la même manière aux différentes choses. Et même dans l'Église. Et je vais peut-être vous choquer, messieurs les pasteurs, si je choque trop, ben arrêtez-moi. Mais des fois, on passe des heures à prier pour se mettre d'accord. Mais on n'a pas encore compris ce que ça veut dire que se mettre d'accord. Se mettre d'accord, ça ne veut pas dire avoir tous la même pensée ou la même idée ou la même opinion. Se mettre d'accord, ça veut dire ensemble trouver un chemin dans notre diversité. Alors on prie, par exemple dans le couple, « Seigneur, parle à ma femme pour qu'elle pense comme moi. » Alors on ne dit pas tout à fait comme ça, mais presque. Qu'est-ce que tu fais tout le temps, moi, je sais. C'est pour ça que je suis très brimé et tout. Comment on fait? On est différents. Et on le sera jusque dans le ciel. Là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ceux d'entre vous qui pensent que dans le ciel, on en aura fini avec la différence, vous vous gourrez. Parce que devant le trône de Dieu, nous dit l'Apocalypse, il y a des gens de toute nation, de toute langue et de toute culture. Ben ouais, il y aura toujours de la différence dans le ciel. Heureusement. Et c'est ça notre apprentissage. Bien sûr, c'est important d'apprendre à prophétiser. C'est important d'apprendre à prier pour les malades. C'est important d'apprendre à évangéliser. C'est important d'apprendre la diaconie. Tout ça, c'est très, très important. Mais la clé, c'est la relation qu'on a les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'autrement, ça nous bouffe de l'énergie. Et j'irai même plus loin, et c'est ce qu'on va développer tout au long de ces soirs. Si je peux avoir des relations valorisantes, édifiantes, élevantes, sécurisées avec mes frères et sœurs, je peux développer mon ministère beaucoup plus que si j'ai la trouille de mes frères et de mes sœurs. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Je me souviens quand on a vécu les premiers éléments en 1974, oui, il faut que je traduise. En 1960, ça c'est un truc marrant chez vous. Là, on est différent. Hein. Moi, quand un Français me dit que t'as un numéro de téléphone, il est toujours faux. Parce qu'il me dit, c'est le 74, moi j'ai déjà quatre chiffres écrits. 6014. Alors qu'en fait, c'est un 74, c'est un 7 et un 4. Mais vous, vous dites 74, c'est marrant. Mais on arrive quand même à se parler. Ah ben alors, c'est super. En 1974, j'étais jeune. On a vécu dans notre paroisse réformée traditionnelle de Genève le renouveau charismatique. On a vécu ça pendant un camp. Le Saint-Esprit nous est tombé dessus, on ne savait même pas qu'il existait. On n'en avait pas entendu parler. Et il nous a balayés pendant 3 jours et on est rentrés, on a été transformés. Alors on a été voir nos pasteurs. On leur a dit, voilà ce qui nous est arrivé. Qu'est-ce que c'est ? Et puis eux, ils ont dit, parce qu'ils nous aimaient tout plein, mais ils ne connaissaient pas non plus. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, ça va passer. Mais moi, j'ai admiré. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Sur le moment, j'ai trouvé ça bizarre. Mais plus tard, je me suis dit, mais ils ne connaissaient pas. Ils ont pris soin de nous. Ils nous ont rassurés. Mais ça n'a pas passé. Mais là, on parle, pour un pasteur réformé de 1974, de jeunes qui rentrent, en prophétisant, en parlant en langue, et puis en racontant des miracles de guérison. Ils n'y comprenaient rien. Mais aujourd'hui, on a le même problème. L'esprit fait des trucs qu'on ne connaît pas. Et quand on voit des trucs qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de dire, ça va passer. L'esprit est libre. Et il fait toutes sortes de choses. Étonnantes. Étonnantes. Parce que quand il y a de la confiance entre nous, quand il y a de l'amour entre nous, quand il y a de l'encouragement entre nous, l'esprit peut libérer beaucoup plus de choses. Parce qu'il sait bien qu'on ne va pas se faire immédiatement mettre le couvercle sur la casserole. L'enjeu est terriblement important. C'est le développement de la puissance de l'Église. Je pense que si nos églises, et la mienne en premier, est dans la faiblesse d'une certaine manière, par rapport à la mission que Jésus nous a donnée, on est dans la faiblesse. Mais si on est dans la faiblesse, c'est parce qu'on passe beaucoup de temps et qu'on a hérité de beaucoup de situations qui, relationnellement, nous bouffent notre énergie. Je vous donne encore un exemple, mais des exemples vécus. Donc moi, je suis un pasteur réformé, je vous l'ai dit. Moi, j'ai appris que pour baptiser quelqu'un, il fallait un godet d'eau. Et puis quand je me suis ouvert à la vie de l'esprit et puis tout ça, j'ai découvert qu'il y a des églises, pour baptiser quelqu'un, il leur fallait un lac. Puis tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est... Puis je parle à des baptistes, donc je prends un risque, hein. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi la bonne quantité d'eau? Mais aujourd'hui encore, je ne sais pas. Parce que quand on réfléchit au baptême dans le Jourdain, par exemple, peut-être bien que c'était ni une immersion, ni une aspersion, mais peut-être bien une affusion. Vous savez ce que c'est l'affusion? C'est quand on met les gens dans l'eau jusque-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup plus, et puis on prend l'eau et on la referme sur eux. C'est les gravures qu'on a de l'imaginaire du Moyen-Âge, à propos du baptême de Jésus, par exemple. Vous avez remarqué, au baptême de Jésus, il est toujours debout. Hein. On ne l'a jamais couché dans l'eau. Alors moi, j'ai baptisé mes jeunes par immersion, après. Et puis, une fois, je suis tombé sur une jeune fille qui avait un problème médical d'oreille. Elle n'avait pas le droit de mettre ses oreilles sous l'eau, sous peine de problèmes médicaux graves. Et elle m'a dit, mais moi, j'aimerais être baptisé au lac. J'ai pas envie d'avoir juste trois gouttes d'eau sur la tête. Alors j'ai réfléchi avec mon collègue, puis c'est là où on s'est dit, mais on va faire une infusion. C'est génial, on a même ça. Est-ce qu'elle est moins baptisée que les autres? J'en sais rien. Mais elle ne pouvait pas vivre autre chose. Alors après, sur des questions comme ça, on a divisé les églises. Il y a les tenants de ceci, les tenants de cela, puis après on en a fait des doctrines. Et puis après, à partir de ces doctrines, on s'est combattu, puis on a écrit des livres pour justifier qu'on avait raison. Et pendant ce temps, le monde se meurt. Moi, je rêve qu'on puisse baptiser les gens comme on veut. L'important, c'est d'aimer Jésus. Point final. Et que si une église baptise avec trois gouttes d'eau, et puis qu'une église baptise avec un lac, eh bien j'ai envie de dire Alléluia, pourvu qu'elle se parle, et pourvu qu'ils s'aiment, et pourvu qu'ensemble, on puisse continuer d'apporter l'Évangile. Alors je prends un risque, je sais, ce soir j'ai fait exprès, parce que Loïc il m'a dit, tu prends un risque, puis tu verras s'ils sont encore là demain. Non, t'as pas dit ça, je te mets mal à l'aise. C'est moi qui l'invente. Nous sommes des êtres relationnels et on n'est pas fait pour couper la communication. C'est notre réflexe de défense. On coupe dès qu'on n'est plus d'accord, dès qu'on n'arrive pas à se comprendre, dès qu'on est sûr d'avoir raison, on coupe la communication. Alors je vous montre encore une petite vidéo pour vous montrer à quel point on est relationnel. Alors c'est des bébés. Alors quand on est devenu grand, on n'est plus comme un bébé. Tu parles, Charles. On a tout autant besoin de relations. De quoi se meurent nos vieux aujourd'hui de solitude? De quoi se meurent nos chefs d'entreprise aujourd'hui de solitude? De quoi se meurent nos adolescents aujourd'hui qui sont en bande de solitude? De quoi se meurent les mamans à la maison pour celles qui y sont encore de solitude? On a besoin de relations. On a besoin d'être ensemble, même si... Alors, ça, c'est une expérience. Alors là, il y a beaucoup d'anglais, mais on s'en fiche parce que ce qu'il dit, ce n'est pas très important. Les images sont parlantes. C'est une expérience qui s'appelle l'expérience still face. Ça veut dire la face, le visage calme. Plusieurs d'entre vous ont peut-être vu ça dans des études de psycho ou d'éducateur ou des choses comme ça. Alors en fait, c'est une expérience, je vous explique. On prend un bébé et puis on lui fait comme ça. Vous êtes d'accord d'être le bébé deux secondes? Moi, je suis la maman. Ça va? On rigole. Alors la maman, elle lui fait « Oh, ouli, 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 ouli. » Et puis à un moment donné, on dit à la maman « Arrête !» La maman, elle est... Et le bébé, on voit, il cherche. Il cherche la relation. Et puis quand il ne l'a plus, il pleure. Et la maman, à ce moment-là, elle fait « Bouli, bouli, bouli !» Puis le gamin, « Ah !» Il est de nouveau, le maman est de retour. Et à la fin, le pédopsychiatre, il explique, c'est ça un peu le truc en anglais, il dit « Il y a trois situations. » Il y a les situations bonnes, c'est quand la relation est permanente. Il y a les situations bad, mauvaises, c'est quand la relation est coupée, mais qu'on peut la rétablir. Et puis il y a les situations ugly en anglais, laide, hein, méchante. C'est quand il y a la relation qui est coupée et c'est définitif. Et combien d'êtres humains souffrent de relations coupées définitives? Alors, on regarde ce petit film, ça dure aussi 2-3 minutes.
Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age.
I'm like a girl. Oh.
And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her.
Yeah.
This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points.
Yeah.
The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing.
Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl.
It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation.
on est des êtres relationnels. Nous aussi, les chrétiens, on n'a pas perdu ça. D'où la nécessité de pouvoir créer, recréer, construire, nourrir des relations entre nous qui soient l'image des relations de la Trinité pour que le monde puisse les expérimenter, pour que le monde puisse voir, pour que le monde puisse goûter ça. Et ces relations-là, c'est ce que nous on appelle l'honneur. On dit l'honneur, c'est le battement du cœur du Père. L'honneur, c'est le battement du cœur du Père. Plus nous apprenons à voir les gens à travers ses yeux, je devrais mettre S majuscule, excusez-moi, remplis d'honneur, plus nous montrerons son cœur pour eux. Apprendre à voir les gens avec les yeux du Père. Un homme qu'on aime beaucoup dit ceci: le diable connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Jésus connaît ton péché, mais il t'appelle par ton nom. On est tous pécheurs. On a tous des erreurs. Par où on appelle notre frère et notre sœur? Qu'est-ce qu'on regarde chez lui en premier? Je ne sais pas le système éducatif français, mais je connais le Suisse. Dans le système éducatif et scolaire suisse, on souligne en rouge ce qui est faux. Et on apprend à voir ce qui est faux. On apprend à voir ce qui n'est pas bon. Et on ne voit pas ce qui est bon. Dieu fait juste le contraire. Oui, il sait ce qui est faux chez nous. Bien sûr. Mais il n'en a pas peur. Et il nous appelle par notre nom, pour notre destinée, pour notre appel, pour notre ministère. Je me souviens d'une femme qui nous racontait ceci. Elle avait témoigné à l'église un dimanche matin de quelque chose dans sa vie que Dieu avait fait. Et vraiment, elle témoignait avec grande joie, une forme même d'exaltation, tellement elle était heureuse de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et à la fin du culte, un ancien pasteur à la retraite l'a pris à part et lui a dit: il faudra quand même penser à garder les pieds sur terre. On a tellement peur. Si l'esprit se met à toucher quelqu'un au milieu de nous, et puis cette personne tout d'un coup comprend des choses, à des révélations, ou tout d'un coup manifeste quelque chose, ou se met à prophétiser, ou que sais-je, ce que l'esprit peut inventer. Ou bien qu'elle se met à aimer. Oh mon Dieu, on lui dira: fais gaffe, c'est contagieux. J'aime beaucoup. On a besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin de changer notre culture. De voir l'or qu'il y a chez l'autre. Et non pas les déchets. Mais on a tellement peur. Ils vont devenir orgueilleux si je leur donne trop de compliments. C'est de la trouille, ça. C'est rien d'autre. Ça pourrait nous échapper. Tandis que si je tiens les gens un petit peu comme ça, dans quelque chose où ils ont bien conscience qu'ils ne valent pas grand-chose, alors ils ne vont pas m'échapper. Mais on fait ça avec nos enfants. Enfin, moi, j'ai fait ça avec les miens. Parce qu'on a des cultures. Et j'aimerais venir sur la notion de culture encore ce soir. Puis demain, on continuera. C'est quoi une culture? On a tous des cultures. Il y a la culture française, il y a la culture suisse, déjà.
Ah. Déjà.
Mais c'est impressionnant. Et ce n'est pas un jugement de ma part. C'est juste de constater, on habite deux pays qui se touchent, on parle la même langue et on n'a pas la même culture. Et encore, quand je dis ça, c'est grossier. Parce que entre Nîmes et Évreux, je pense que vous n'avez pas la même culture. Et puis nous, c'est encore pire. Entre Genève et Lausanne, il y a 60 km, ce n'est pas la même culture. On a des cultures différentes, des habitudes, des choses qui nous meuvent. On va définir le mot culture, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. La culture, pour moi, pour nous, c'est la programmation de notre pensée. On est programmé depuis tout petit. Je vous donne un exemple personnel. Mon père, qui est maintenant décédé, bien sûr, il aurait 102 ans autrement. Mon père est un homme qui a connu, il est né en 1917, il a connu donc la crise des années 30. À l'époque, c'est les Suisses qui partaient à l'étranger parce qu'il n'y avait pas de travail chez nous, donc il fallait aller chercher du travail. Hein. Le monde a changé, hein, mais dans un autre sens. Mais voilà, il a connu la crise, il a connu la faim, il a aussi connu la guerre, moins que vous, mais il a aussi connu la guerre. Il a connu la privation, il n'a pas pu faire les études qu'il voulait parce qu'il a fallu nourrir la famille. Et quand il a eu ses deux fils, mon frère et moi, il nous a transmis un petit bout de sa culture. Il nous a dit, mes fils, vous devez toujours avoir 3 salaires d'avance à la banque. Et moi, j'ai cru ça. C'est mon père qui m'a dit. Alors il l'a dit, redit, de différentes formes. Il nous a transmis cette crainte du manque qu'il a connue. Et quand on s'est mariés, nous deux, la petite et le grand, Monique, elle n'avait pas cette culture-là. Et pourtant, elle avait aussi vécu dans une famille qui a connu la privation, et encore plus que la mienne. Mais elle n'avait pas la même culture liée à l'argent. Alors, vous mettez deux comme ça, puis vous faites le budget. Ma pensée est programmée, la sienne est programmée, et nos programmes ne correspondent pas. Mais ça pose des problèmes. C'est ça la culture. C'est la programmation de la pensée. Si je prends quelques exemples, chez nous par exemple, si on est en retard, c'est la honte. J'ai remarqué que chez vous, un peu moins. Mais ce n'est pas un problème en soi, c'est une différence. Une fois qu'on est entré, je suis arrivé chez Loïc. Ah oui, ça c'était drôle. Moi, maintenant, je m'en suis remis, mais sur le moment, c'était compliqué. J'arrive chez Loïc, il n'y a pas de place de parc. Alors Hélène, elle est où Hélène? Je l'ai vue tout à l'heure. Ah, t'es cachée là. Hélène, elle me dit, mais t'as pas de problème, tu te mets en face sur le trottoir devant le garage là, le monsieur il est gentil, puis t'attends, on verra bien tout à l'heure. Moi, le Suisse, mettre ma voiture dans un endroit interdit, il y avait un panneau en plus, interdit de stationner là, moi. Les cultures, c'est juste ça, culture. On en est rempli, vous êtes d'accord? Donc c'est une programmation de la pensée. Et cette programmation, elle a deux résultats, un positif et un négatif. Le positif, c'est que chaque fois qu'on dysfonctionne, on y revient. Donc c'est un côté sécurisant. D'accord? Mais le côté négatif, c'est que chaque fois qu'on essaye de fonctionner autrement, on y revient aussi. Par exemple, le 1er janvier, Vous savez, la date où on prend les bonnes résolutions. Cette année, je ferai mes 10 minutes de gymnastique tous les matins. 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier. Fini. On est revenu. Nous, on prend beaucoup de bonnes résolutions à propos du chocolat. Et oui, au monde, on est le peuple qui mangeons le plus de chocolat par personne. Alors on prend des résolutions, mais on n'y arrive pas. Vous avez déjà essayé de prendre des bonnes résolutions? Ou bien cette année, je lirai ma Bible. La Bible en un an. Avec un lectionnaire. Monique, elle l'a fait plusieurs fois et j'ai beaucoup admiré ça. Moi, je n'y arrive pas. Pourtant, je suis pasteur en plus. Mais lire la Bible en un an, je n'y arrive pas. Alors une fois, parce que j'ai un petit côté comme ça, challenge, je me souviens, dans le chalet de mes parents, une fois, j'ai pris ma Bible et puis j'ai lu toute ma Bible en 10 jours. J'étais fier, mais j'ai rien retenu. C'est difficile de changer nos comportements. Très difficile. Ça, c'est une définition que je prends à un monsieur qui s'appelle Paul Manwaring. C'est un Anglais qui a vécu quelques années aux États-Unis, qui maintenant est de retour en Angleterre. Un homme très intéressant. Il dit ceci. Une culture, c'est une collection de croyances, de traditions et de coutumes portées par un groupe de personnes. Donc, dès qu'on a un groupe de personnes, une famille, une église, un quartier même peut-être, ou une profession, dès qu'on a un groupe de personnes, il y a une culture. Moi, j'ai dirigé pendant quelques années une institution pour personnes alcooliques. C'était une assez grosse institution, j'avais à peu près 100 de collaborateurs, on accueillait à peu près 600 malades par année, et j'avais plusieurs corps de métier. Alors ce que je vais dire encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. J'avais des infirmiers, infirmières, j'avais des éducateurs, éducatrices, j'avais des assistants sociaux, assistantes sociales, et puis j'avais des moniteurs d'atelier. Vous voyez ? Et bien, je peux vous dire que la culture de ces corps de métier n'est pas la même. Quand on dit à un infirmier ou une infirmière, faut faire comme ça, il dit oui monsieur. Parce qu'il est dans une culture d'obéissance à la hiérarchie médicale. Moi je ne suis pas un médecin, mais je suis la hiérarchie. J'étais le grand chef, celui qui a un téléphone sur le bureau. Mais quand vous dites à un éducateur ou une éducatrice, il faut faire comme ça, il vous dit pourquoi. C'est mieux, c'est moins bien? Ben ça dépend. Si le commandant des pompiers donne un ordre et que les pompiers disent pourquoi, ça ne va pas. Mais quand on est dans d'autres circonstances, c'est toujours intéressant de questionner. Donc ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de culture. Vous saisissez? Donc, c'est une collection de croyances. La croyance, ce n'est pas la foi chrétienne. La croyance, c'est ce qu'on croit à propos du monde, à propos des autres, à propos de soi, etc. Hein? Il y a des groupes qui pensent qu'ils sont les meilleurs, par exemple. Il y a des groupes qui pensent qu'ils sont les moins bons. C'est des croyances, rien d'autre. Tradition, ben vous voyez ce que c'est, les coutumes aussi, c'est un peu la même chose. Porté par le feu. Bon. Ce groupe de personnes empoigne le monde, j'aime bien ce mot, c'est-à-dire qu'il se débrouille dans le monde à partir de sa culture. C'est comme ça qu'on traverse le monde. Moi, j'ai fait de la moto, pas mal de moto. Quand vous prenez un groupe de motards, eh ben, il y a une culture. Et le groupe de motards, il traverse le monde selon sa culture motard. En gros, vous lui dites, J'étais chez Ikea à acheter une table. Il vous dit, puis comment tu l'as mis sur la moto? Il dit, mais j'étais en voiture. Ah. Vous voyez, parce que c'est pas possible d'aller en main. Hein? T'as été dans une caisse. Toi? Ben ouais, pour mettre une table sur une moto, c'est compliqué. Oh, on aurait pu trouver une combine. C'est la culture motard. Il y a des cultures. Et puis le problème, c'est qu'elle passe de génération en génération à travers l'éducation et l'apprentissage. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne veux pas décourager les plus jeunes parmi nous, mais moi, quand j'étais jeune adulte, j'ai dit « pas comme mon père ». Il y a 40 ans, c'était « comme mon père ». Parce que ça passe de génération en génération. On fait des trucs, on ne sait même plus pourquoi. Je vous donne l'exemple, les 3 salaires à la banque. Moi, j'ai pris ça. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Parce que je n'ai jamais vécu, oui, on a vécu très modestement, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais je n'ai jamais vécu la privation. Je n'ai jamais eu besoin de m'expatrier pour trouver du travail. Je n'ai jamais craint d'être à zéro. Mon père, oui, donc il avait une raison de penser ça. Après, il transmet, puis si moi j'avais transmis à mes enfants, d'ailleurs peut-être j'aurais transmis un peu, hein. Possible, je sais pas.
Ils ont 2 salaires.
Ouais, ils ont 2 salaires. Ils ont des salaires plus hauts. Alors. Puis Monique était là, elle veillait au grain. Mais on transmet, puis au bout d'un moment, on a des trucs, on sait qu'on va les faire, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Mais on les fait. C'est comme ça. Alors, pour expliquer un peu ce que c'est qu'une culture, et puis je terminerai là-dessus. J'aimerais vous raconter une expérience qui a été faite plusieurs fois. C'est une expérience avec des singes. C'est une expérience où on met des singes dans une cage, une pièce, et au milieu de cette pièce, on met une échelle qui permet d'accéder à des bananes. D'accord ? La culture singe, c'est « Youpi, on monte l'échelle et on prend les bananes. » Vous êtes d'accord ? La culture singe. Nous, on ne ferait pas. À moins qu'on ait vraiment envie d'une banane. Nous, on n'a pas faim. On va pas s'en quitter à monter en escabeau pour aller chercher une banane. Mais voilà. Le problème, c'est que les scientifiques avaient une idée derrière la tête. Alors, ils sont intervenus sur la culture du groupe. Chaque fois qu'un des singes essayait de grimper l'escabeau, une douche glacée aspergeait automatiquement les autres. Pas celui qui monte, hein. Les autres. C'est un peu vache, hein. Mais enfin, c'est une expérience. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, chaque fois qu'un des singes essaye de monter sur l'escabeau, les autres le frappent. Par crainte de prendre une douche glacée. On a installé une culture. C'est dangereux de monter sur l'escabeau. C'est une culture. Mais on a tous ces cultures-là. C'est dangereux de... C'est dangereux de laisser sa voiture sous un panneau de stationnement interdit dans une ville inconnue du Sud. Bien entendu, au bout de quelques temps, plus aucun des singes ne se risqua à grimper sur l'escabeau malgré la tentation. C'est installé, c'est comme ça. Le groupe a acquis la culture. Mais on a une culture. Je vous ai dit, on s'est converti dans le monde réformé. Le culte, la paroisse dans laquelle j'étais, au culte, la moyenne d'âge, ça peut être à peu près 80 ans. Moi, 80, pardon. Non, mais 80, c'est logique. 70, 80, 90, non, c'est pas, hein, j'ai raison. Non, 80. Quand on s'est converti, on était tout un groupe de jeunes, on a fait chuter la moyenne d'âge. Mais ça, c'est un autre problème. Dans la culture réformée, au début du culte, ça commence à 10h, tout le monde est là à 10h moins 5, assis sur les bancs, en silence. À 10h, c'est la culture. À 10h, l'organiste, et puis le pasteur entre, pieusement, et puis il va s'arrêter. Et puis on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Peut-être qu'il prie. Et puis après, il va s'asseoir. Pendant ce temps, l'organisme finit son cours. Ça, c'est la culture. D'accord ? Quand on s'est converti, on a rencontré des jeunes de l'église de réveil, de l'église libre. Puis on a été invités à leur culte. C'est pas la même culture. Dans leur culte, à 10h, ça ne commence pas. Il y a un bruit pas possible. Tout le monde se fait you, 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 you. Vous voyez ? Culture différente. Puis tout à coup, il y a un type, c'était il y a pas mal d'années, hein, maintenant ce serait un orchestre, mais il y avait un type avec une guitare, il se met devant, puis il fait chaudement. Tout le monde se tait et se lève. Nous, on était là, assis, on regarde, on dit, tiens, on a raté quelque chose. Hein. C'est des cultures. Chaque bocal à singe a sa culture. Ça va si je le dis comme ça ? Et j'en fais partie. Alors maintenant, ce n'est pas fini. Parce que les chercheurs décident alors de remplacer les singes. Pour commencer, un seul singe de la communauté fut remplacé par un nouveau. La première chose que fait le nouveau, c'est monter son escabeau. Les autres le frappent. Alors le nouveau singe, si je prends l'exemple de nos églises, c'est, vous savez, le groupe de jeunes est sorti vendredi soir pour évangéliser. Et puis ils étaient au bar, et puis ils ont rencontré un gars plein de tatouages, plein... et puis le gars, il a écouté le message. Puis ils lui ont dit, viens au culte dimanche matin. Vous voyez, puis c'est le groupe de jeunes réformé. Alors à 10h moins 5, tout le monde est silencieux. Puis à 10h moins 1, il y a le gars du bar qui arrive. C'est le nouveau singe. C'est le nouveau singe. Et puis, devant, là-bas, il voit son copain du bar, celui avec qui il a parlé. Il lui fait « Wow !» Et tout le monde « C'est une manière de frapper. Parce qu'il n'a pas la culture. Alors, ou bien il prend la culture, ou bien il part. Soyons clairs. Mais ça peut être quelque chose de complètement différent. Hein. Moi, je n'ai jamais fait ça, mais je pourrais une fois faire. Si je suis invité au culte dans une église, vous savez, un peu genre brésilienne, pentecôtisante, un truc vraiment très chaud. Hein. Et puis j'arrive avec la robe noire et le rabat blanc, par exemple. Je pourrais faire ça. Ce serait marrant de voir si le singe passe. Alors le premier, c'est ce qui lui arrive. Hein. Quelques coups plus tard, le nouveau membre de la communauté avait appris à ne plus grimper sur l'escabeau sans même connaître la raison de cette interdiction. Il n'y a pas une douche, hein. Juste des baffes. On apprend la culture. Un deuxième singe est remplacé, subit le même sort que le premier. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier se joint aux autres pour le baffin. Il n'a aucune idée pourquoi. Et alors on les remplace tous les uns après les autres. On répète le processus, un troisième, un quatrième, un cinquième. Tous subissent le même sort dès qu'ils tentent de monter sur l'escabeau. Le groupe de cinq singes, maintenant les nouveaux, bien que n'ayant jamais reçu de douche froide, continue de frapper tout nouvel arrivant qui tente de monter sur l'escabeau. Ça, c'est l'illustration d'une culture. Et nous sommes avec des cultures relationnelles. Nous sommes avec des cultures ecclésiales. Nous sommes avec des cultures théologiques. Nous sommes avec des cultures spirituelles. Je me souviens, quand j'ai fait mes études de théologie, comme on voulait nous faire goûter à différentes choses, on nous a emmenés une fois faire une retraite d'une semaine chez des sœurs carmélites. L'oraison. 3 fois par jour, 1 heure en silence. Pour des jeunes théologiens, c'est pas facile. Il faut entrer dans cette culture. Et puis même si ce n'est pas la mienne, est-ce que je peux la regarder d'un œil bienveillant? Est-ce que je peux me dire, elles vivent quelque chose que je ne connais pas? Je n'ai pas forcément besoin de le connaître. Mais est-ce que on peut faire autre chose que se juger l'un l'autre? C'est intéressant. Moi j'entends, et encore une fois, ce n'est pas du jugement de ma part, mais j'entends les chrétiens, et moi le premier qui dit, j'ai tellement de peine, monsieur le pasteur, à lire ma Bible 15 minutes par jour, et à prier, parce que mon esprit s'évapore. Et il y a des sœurs carmélites, qui sont capables de se concentrer 3 fois 1 heure par jour sur le Seigneur. Tous les jours de leur vie. Est-ce que je suis meilleur, moi, le réformé évangélique? Est-ce que je suis moins bon? Ce n'est même pas la question. La question, c'est, on a 2 cultures. Comment est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres? Comment est-ce que la sœur carmélite peut m'encourager? Comment est-ce que moi, je peux l'encourager? Comment est-ce qu'on peut se regarder en disant, waouh, le corps du Christ est divers, varié, différent, mais génial. Et bien sûr, on n'est pas d'accord sur tout. C'est évident. C'est évident. Mais encore une fois, le jour où on est tous d'accord sur tout, on n'est pas loin. Nous, on vit une période d'élection en Suisse. On a 2 partis chrétiens, officiellement chrétiens. Un de gauche et un de droite. C'est intéressant. Et c'est des chrétiens convertis, qui aiment Jésus, etc. Qui sont... Moi, j'en connais des 2 côtés. Ils sont tous géniaux. Mais ils n'ont pas la même opinion politique. Au point de militer dans les partis. Donc ce n'est pas juste une histoire de voter. Ça, on vote tout le temps, nous. Ce n'est pas juste une histoire de voter une fois. C'est une question de militance. Il n'y en a pas un qui est moins chrétien que l'autre. Simplement, ils ont une vision, une compréhension différente des choses. Et il faut qu'on réalise ça. On n'est pas les mêmes. Mais on peut apprendre à s'aimer et à être un comme le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Avec des ministères différents, des visions différentes. Oh, chouette, mon cerveau qui vient.
Tu devrais bien être le cœur aussi, pas seulement le
cerveau. Oui, mais ça, tu es.
On a vu là l'expérience avec les singes. Ils ont appris quelque chose de différent. Ils avaient une culture, et puis ils ont changé de culture. Et ça, ça doit nous donner beaucoup d'espérance, parce que quelle que soit notre culture et les défauts que peut avoir notre culture, eh bien, on peut adopter la culture du ciel. Et c'est possible. Et puis quand ça commence à un endroit, ça coule sur tous les autres. Alors j'avais juste envie de dire ça. Mais il faut qu'on s'arrête.
On s'arrête. D'ailleurs, j'ai fini. Amen.